Frères et sœurs, je voudrais lire avec vous le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1, donc, je lirai le premier chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères et sœurs, je n'ai pas la prétention de vouloir expliquer tout le chapitre, et ça serait trop long. Paul, ici, s'adresse aux fidèles en Jésus-Christ, pas seulement à ceux qui sont à Éphèse. Donc, cette lettre nous est donc bien adressée. Il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui a choisi de l'être. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est par la volonté de Dieu. On peut en voir le récit dans les Actes au chapitre 9 et dans les versets 13 à 16. Mais je ne vais pas développer cet aspect-là maintenant, bien que cela puisse être intéressant. L'apôtre nous écrit pour nous faire découvrir toutes les bénédictions dont nous sommes bénéficiaires quand nous croyons en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Au verset 3, nous remarquons que ces bénédictions sont spirituelles, non matérielles, et qu'elles sont célestes, non terrestres. Ensuite, toutes ces bénédictions nous sont accordées uniquement en Christ. À plusieurs reprises, nous lisons l'expression « en Christ », « en lui » ou « dans le bien-aimé ». Quatre phrases commencent par « en lui ». Paul insiste bien sur ce point. Inutile de chercher des bénédictions ailleurs. Vous n'en trouverez pas. Pas dans Confucius, pas dans Bouddha, pas dans Krishna, pas dans Mahomet, pas dans le yoga et nulle part ailleurs dans ce monde. À Éphèse, il y avait la Diane des Éphésiens, autrement appelée Artémis. L'Évangile est venu bouleverser tout cela. Paul dira dans l'Épître aux Colossiens, « Vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ceux qui se disent chrétiens et qui cherchent ailleurs d'autres expériences ne sont tout simplement pas chrétiens. Tout ce qui est bon pour nous, spirituellement, nous est donné par Dieu en Christ. Au verset 4, nous lisons que Dieu nous a élus. Il nous a choisis. N'est-ce pas formidable de savoir que Dieu nous a élus? Nous qui ne sommes rien face à sa grandeur. Nous qui nous sentons si insignifiants. Dieu nous a choisis. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui ne s'intéresse pas à nous, bien au contraire. Et depuis quand s'intéresse-t-il à nous? Ce n'est pas de maintenant, et ni depuis que Jésus est né. C'est avant que le monde soit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Avant que le monde soit, Jésus était auprès de Dieu. Et c'est en Christ, à ce moment-là, que Dieu nous a élus. Et pourquoi nous a-t-il élus? Pour que nous soyons saints et irréprochables, nous qui ne le sommes pas du tout. Dieu a prévu, avant la création du monde, en Christ, de nous rendre saints et irréprochables. Alors, nous qui croyons et qui espérons en Jésus, ne nous lamentons pas sur notre sort, sur nos difficultés, puisque nous savons que ce que Dieu prévoit, il l'accomplit. Nous serons bien saints et irréprochables quand il nous prendra avec lui. pas par nous-mêmes, mais à cause de l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne nous veut pas seulement comme ses créatures ou ses serviteurs. Il nous élève au rang d'enfants, de fils, de filles. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, toujours par et en Jésus-Christ. Ce n'était pas une revendication de notre part. On se serait bien contenté d'être en sa présence comme serviteur. Jésus met dans la bouche du fils prodigue qui revient repentant vers son père. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais Dieu fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est lui. C'est lui qui l'a décidé avant que le monde soit, par sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant même de commencer sa création, Dieu a pris plaisir à concevoir ce plan. Beaucoup de gens vivent dans la crainte de l'avenir, de mauvais esprits. J'en parlais encore la semaine dernière justement avec mon beau-fils Timothée, qui parmi ses collègues discute et ils sont travaillés par tous les esprits, les sorts, la crainte des sorts qu'on peut leur jeter, etc. Et on est au 21e siècle, hein, mais beaucoup de gens sont travaillés par tout cela. Donc beaucoup de gens vivent dans la crainte d'esprits mauvais ou du courroux d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais l'apôtre Paul, dans cette épître, nous révèle que Dieu prend plaisir à nous faire du bien et qu'il a tout conçu pour faire de nous ses enfants. Nous n'avons donc rien à craindre de l'avenir. Il sera obligatoirement bon pour nous si nous sommes dans la foi en Christ. Jésus est venu pour nous révéler l'amour du Père. L'apôtre Jean l'a bien compris, lui qui nous dit dans sa première épître, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Dans quel but fait-il de nous, ses enfants ? Pour célébrer sa grâce, la gloire de sa grâce, la grandeur, la splendeur de sa grâce. Dieu, comme le père de la parabole, veut se réjouir avec nous. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Dieu ne veut pas se réjouir tout seul, il veut se réjouir avec nous, tous ses enfants qu'il a rachetés. En nous graciant, Dieu nous a favorisés. Dieu nous est favorable. Mais il n'y a pas là de favoritisme. Tout le monde peut bénéficier de cette faveur. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Nous dit toujours l'apôtre Paul en Romains 8. Cette faveur s'obtient toujours dans le bien-aimé, le Fils, le Christ. Vous voulez la faveur de Dieu ? Vous n'avez rien à faire d'autre que de venir à Christ et de recevoir sa grâce. Dans Matthieu au chapitre 17, nous lisons « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Découvrant ou connaissant tout cela, nous ne pouvons pas nous décourager ou douter ou déprimer. Avant même la création, Dieu nous aime, il nous est favorable, il a prévu dans sa bienveillance une fin merveilleuse et glorieuse pour nous. Alors peut-être que tout ce que nous avons vu jusqu'ici semble lointain pour quelques-uns. Peut-être que ces bénédictions spirituelles et célestes vous semble éloigné de vos problèmes journaliers. Mais ce plan bienveillant de Dieu est devenu bien concret et terrestre par la création du monde et ensuite par l'incarnation du Fils de Dieu. Il a vécu parmi nous sans péché. Le rachat n'est pas quelque chose de théorique, c'est une réalité physique. Jésus a été crucifié, son sang a coulé, il est mort sur cette croix. À cause de cet acte bien concret, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Cet acte était préfiguré par la Pâque juive. Les premiers-nés des Hébreux qui auraient dû mourir, comme ceux des Égyptiens, puisque devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Ils étaient tous condamnés, mais ils ont été épargnés à cause du sang de l'agneau badigeonné sur les linteaux des portes. Et Paul le rappelle dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que nous vivons bien souvent sur la terre est bel et bien la conséquence du péché de l'homme. Mais nous pouvons bénir Dieu pour le salut qu'il accorde. Jean le Baptiste avait dit en regardant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est vrai, la vie sur la terre n'est pas facile. Et tous les jours, nous voyons les conséquences du péché et la mort qui se répand. Mais nous savons maintenant que, avant même que le monde soit, Dieu avait déjà conçu la solution en son Fils bien-aimé, en Jésus-Christ. Cette grâce qui est répandue sur nous n'est pas répandue au compte-gouttes avec parcimonie. Elle est répandue abondamment sur nous. Elle nous procure la sagesse et l'intelligence pour comprendre et recevoir ce plan merveilleux de Dieu. Nous ne pouvons pas le comprendre avec notre sagesse humaine. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Paul dit aussi dans 1 Corinthiens, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce dessein bienveillant de Dieu était un mystère pour les hommes, bien que Dieu l'ait révélé en partie à ses prophètes. C'est ainsi que Jérémie pouvait dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous lisons dans Romains chapitre 11, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce qui doit nous rassurer, toujours nous rassurer, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'il y a un plan de Dieu qui se déroule et qui s'accomplit au moment choisi par Dieu. Ce plan est de réunir les choses célestes et les choses terrestres qui sont séparées, de les réunir en Christ. La conséquence pour nous, c'est que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste après la résurrection. Comme nous sommes en croyant en Dieu et en Jésus-Christ devenus des enfants d'adoption, nous devenons aussi des héritiers. Nous portons le nom de Dieu, le nom du Christ. Nous sommes des chrétiens, selon ce que les premiers chrétiens ont été appelés par ceux qui les voyaient. Si nous portons ce nom, nous hériterons, car les fils et les filles héritent. Si nous ne voulons pas porter ce nom, nous ne pouvons pas hériter. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est dans les Nombres, au chapitre 23. L'évangile de notre salut est la parole de vérité. Nous avons cru en lui, en Christ. De ce fait, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Alors, on peut voir les choses de deux manières. La première, Dieu met sur nous un sceau qui atteste qu'il constate notre foi en Christ. Il nous donne son esprit. Le Saint-Esprit nous est donné comme un gage, un acompte, une assurance, une garantie, un avant-goût de ce que nous allons recevoir dans le ciel, notre héritage. Nous le recevrons dans le ciel complètement. La deuxième manière, c'est que nous pouvons voir ça comme un scellement que l'on fait dans un mur. Le Saint-Esprit nous scelle en Christ, nous attache fortement à Christ. C'est lui qui nous rappelle les paroles du Christ, qui nous aide à comprendre le plan merveilleux de Dieu. Frank Binford Hall, qui était un auteur et qui a fait des commentaires sur les différents livres de la Bible, dans son commentaire nous dit que les choses se déroulent toujours dans le même ordre. On entend l'évangile, premièrement. Deuxièmement, on le croit. Troisièmement, on reçoit le Saint-Esprit. Acte 2 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avez-vous l'Esprit de Dieu en vous? Est-ce qu'il vous parle? Avez-vous l'assurance du salut? Quand on se pose la question, ai-je reçu le Saint-Esprit? On doit simplement se poser ces questions. Ai-je entendu l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Je dirais uniquement et seulement en Jésus-Christ, sans rien ajouter d'autre que Jésus-Christ. Dans les Actes, au chapitre 4, il est dit, 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc uniquement par Jésus-Christ, sans rien y ajouter, si nous avons entendu cette bonne nouvelle du salut. Et dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, ai-je entendu cette bonne nouvelle? Ai-je reçu et cru cette bonne nouvelle? L'ai-je confessé? Si je peux répondre oui, alors Dieu m'a scellé par son Esprit en Christ. Le Saint-Esprit va nous affermir tout au long de notre vie. Il n'est pas la question d'expériences extraordinaires ou particulières. Si nous avons entendu l'Évangile, si nous avons vraiment cru à cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Dieu nous a scellés par son Esprit. Le Saint-Esprit est en nous comme un gage que Dieu nous a donné. Par cet enseignement, l'apôtre veut nous affermir. C'est l'Esprit qui l'a inspiré et qui continue de travailler à notre affermissement. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Puisque le but de l'Esprit est de nous affermir pour nous faire hériter de toutes les richesses de Dieu, Paul nous dira au chapitre 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Eh bien, que le Seigneur continue son œuvre en chacun de nous.